Voilà, il est là, de retour parmi nous, les nouvelles internationales avec Loïc Tassé. Bonjour mon cher.
Bonjour Bernard.
Écoute, on a fini la dernière saison avec Donald Trump et on reprend avec Donald et ses péripéties.
C'est étonnant, quand même.
N'est-ce pas? Oui. Un autre rebondissement.
C'est l'affaire Omarosa Mignot-Newman, qui est une collaboratrice de Trump de longue date. Elle était là dans The Apprentice pendant 10 ans. Elle l'a suivi à la Maison-Blanche. Elle était conseillère spéciale. Et elle a été renvoyée en décembre par Mattis, qui lui a dit, écoutez, ça va...
Mattis étant le directeur de cabinet.
Mais elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Mattis l'a fait appeler dans la pièce la plus protégée de la Maison-Blanche. Tu sais, il y a une cage de Faraday pour pas qu'on puisse écouter.
Ce qu'ils appellent en bon latin le Situation Room.
Exactement.
Là où il coordonne, par exemple, supervise des opérations militaires. Là.
C'est là où les plus grands secrets d'État sont discutés.
Parce que c'est à l'abri de toute écoute électronique. Donc, il faut pas rentrer d'appareil électronique dans cette salle.
Non, mais elle a un enregistrement de M. Mattis qui lui explique qu'elle est renvoyée dans cette salle-là.
Et pourquoi elle est renvoyée?
C'est obscur, un comportement, des problèmes de sécurité. Mattis est très flou là-dessus. En fait, Trump l'a tweeté plus tard qu'elle était incompétente et qu'elle s'occupait pas.
Qu'est-ce qu'elle faisait auprès de Trump?
Écoute, c'est un peu obscur, tu sais. Je pense qu'elle était là avec les relations publiques.
Oui, c'est ça.
Elle s'occupait beaucoup de ça. Ouais. Mais... ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle ait réussi à rentrer cette enregistreuse, probablement son téléphone, et enregistrer. Il y a beaucoup de gens qui disent, attention là, c'est parce que ça, c'est un des endroits les plus secrets au pays. Voulez-vous nous expliquer comment vous avez réussi à rentrer cet appareil et à faire un enregistrement dans cette pièce-là? Bon. Et si vous avez réussi à faire ça, il y a peut-être des problèmes de sécurité ailleurs dans la Maison-Blanche. Et on souligne d'ailleurs que Trump, figure-toi, j'ai appris ça, il utilise un téléphone non sécurisé pour ses appels.
Ben voyons.
Oui.
Ah bon?
Non, écoute,
les Russes doivent savoir.
Tout le monde peut l'écouter.
Les
pas
Chinois,
juste
les Russes.
Toi, moi, si tu as l'équipement nécessaire, tu peux l'écouter.
On pourrait scotiser.
Mais il faut savoir que Madame Newman va publier un livre demain. Et c'est un livre qui est très attendu.
Là, l'enregistrement, il faut savoir.
C'est ça, ça fait partie de cette guerre avant la publication.
C'est ça.
Ben oui, Trump
ça fait
est sorti.
Une opération marketing.
Absolument.
Elle veut faire un coup d'argent à la madame. Là.
Bien entendu. Et Trump est sorti en disant qu'elle était folle, donc et qu'il ne fallait pas croire ce qu'elle disait. Mais dans son livre, on a quelques extraits ici et là qui sont sortis. Elle dit que la Maison-Blanche est un endroit où tout le monde ment, tout le monde se protège de tout, de tout le monde. Elle décrit donc l'environnement absolument chaotique de la Maison-Blanche et elle laisse entendre que Donald Trump a des problèmes de cognition, qu'il a de la difficulté à prononcer des mots de plus que quelques syllabes. Donc, on verra ça demain. On va en parler. Je pense qu'on va avoir de larges extraits.
On m'a dit que c'est John Kelly qui est sur l'enregistrement.
C'est John
le directeur
Kelly.
De cabinet.
J'ai dit Mattis. Kelly. Tu as raison,
c'est le secrétaire au Pentagone. Hein,
tu as raison, c'est ça.
Voilà,
Mattis.
Voilà. Ben oui. Parlons un petit peu de la Turquie. Parce que là, la Turquie, ça va pas bien.
Va.
La monnaie turque la livre turque est en forte baisse encore ce matin. Imaginez-vous, mesdames et messieurs, on jase, vous avez mis de côté pour votre retraite, mettons 100 000 $ OK, 100 000 $ canadiens. Et là, après quelques jours, votre 100 000 $ canadiens ne vaut plus que 50 000 $ canadiens parce que le dollar canadien a perdu 50 % de sa valeur.
En fait, en taux de change, c'est là, face au dollar américain, tu as tout à fait raison. Au début, c'est pas exactement du jour au lendemain, mais quasiment. Au début de l'année, ça valait 3,8 livres, c'est la monnaie turque pour un dollar. On est rendu à 7,2 livres aujourd'hui
c'est
pour le dollar.
C'est pratiquement 50%.
Erdogan panique. Et là, il accuse en ce moment les États-Unis. Il dit que c'est la faute des États-Unis. Il nous plante un poignard dans le dos.
Parce que Trump a imposé des tarifs aux produits turcs, comme il le fait pour les Chinois, les Canadiens, les Mexicains.
L'acier, l'aluminium, il a fait pire que ça. Il a dit, ce week-end, il a dit, écoutez, puisque votre monnaie est dévaluée de 50%, je vais doubler les tarifs face à la Turquie pour que vous puissiez pas concurrencer l'acier américain.
C'est
très cochon. Il dit, lui, s'il a le dollar, qu'il sache que nous avons Allah. Bon, oui, tu vois,
parce que lui, c'est un méchant moineau, là.
On
s'entend que le président turc,
c'est un islamiste.
Déguisé en dictateur,
absolument.
Là.
Absolument. Oh oui. Et le problème, c'est que son économie va très mal de toute façon. C'est très mal géré. Il y a des graves problèmes en Turquie. 11% de chômage, 11% d'inflation. Et dans des cas comme ceux-là, normalement, ce qui arrive, c'est que la banque centrale augmente son taux directeur. Sauf que le taux directeur de la banque centrale turque, il est à 17,75% en ce moment. Alors, si tu augmentes ça de quelques points encore...
Ça, c'est son taux d'intérêt 17,75.
De la banque?
Oui, oui.
Alors, ça, c'est pas toi et moi.
Donc, tu vas à la banque turque, quelque part, à Istanbul,
c'est du 23%.
Ça va pas très bien pour investir puis pour acheter ça.
Non. Alors, donc, il veut pas augmenter ça. Et puis, il y a aussi, ce qui a déclenché tout ça, c'est que, figure-toi, qu'il a nommé son beau-fils comme ministre de l'économie. En fait, tout le régime est extrêmement corrompu. Et les investisseurs commencent à sortir leur argent de la Turquie parce qu'ils craignent pour l'économie turque. Ils pensent que l'économie turque va mal. Le problème, c'est que c'est en train de contaminer d'autres économies. L'Inde et l'Indonésie sont en train de souffrir de ça. Il y a, semble-t-il, le début d'un mouvement mondial de retrait de capitaux d'investisseurs qui
pour aller les convertir en dollars américains.
Ben oui. Et tu sais, ça, c'est un effet domino. Hein. Ça peut partir très, très vite.
Oui,
on a déjà vu ça, par exemple, en 1998 en Asie, un peu pour d'autres raisons. Mais il y a beaucoup de gens qui font le parallèle entre ce qui s'est passé en Asie et ce qui se passe en Turquie.
Et ça s'est arrêté en Malaisie, dans le cas de... Tu te rappelles, il avait empêché la sortie des devises malaisiennes.
Eh bien, on se demande si la Turquie ne va pas faire la même chose. Et ça s'est arrêté aussi parce que la Chine a joué un rôle là-dedans majeur. Elle a refusé de dévaluer. Mais tout le monde s'est mis à dévaluer sa monnaie parce que tout le monde voulait vendre. Alors, on a peur que tous ces marchés émergents se mettent à dévaluer les uns après les autres leur monnaie pour répondre en partie à Trump, pour répondre aussi à la crise en Turquie.
Il est vraiment en train de foutre le bordel partout.
Tu crois?
Non, mais c'est incroyable.
Ah, c'est incroyable.
Non, mais tu sais, je veux dire, on le regardait aller au début puis on se disait, il est fou furieux, mais je veux dire, jusqu'à quel point peut-il, lui, président, tu sais, réussir mais là, écoute, même les institutions américaines sont assez limitées dans les espèces d'entraves ou de contraintes qu'ils peuvent
gens
qu'ils
lui
peuvent
désobéir. Lui imposer. Je ne sais pas si tu as vu la nouvelle qui est sortie il y a quelques jours au sommet de l'OTAN, il y a un mois. Ses conseillers se sont dépêchés de négocier dans son dos avec les ambassadeurs
de
l'OTAN une entente pour pas qu'il arrive et qu'il renie tout ça en se disant et ils lui ont même pas montré le texte en entier.
Et finalement, ça n'a pas fonctionné. Puis il est arrivé à l'OTAN, puis il a imposé, a-t-il dit, une augmentation des dépenses militaires.
Oui, mais dans les faits, c'est signé. Il y a une reconduction des traités majeurs de l'OTAN. Bon. Mais on a joué dans son dos pour l'empêcher d'intervenir.
OK. Rapidement, les deux Corées qui vont se revoir, Corée du Nord, Corée du Sud, en septembre.
Oui.
Moi, je vais te dire franchement, j'ai l'impression que les belles discussions entre Trump et le leader nord-coréen, j'ai l'impression que ça ne mène pas là où ça devrait.
Ça mène nulle part pour le moment. C'est-à-dire que les deux campent sur leur position, et la Corée du Nord et les États-Unis.
Et la dénucléarisation qui devait survenir, elle ne survient pas.
Ben, je pense qu'on en a souvent parlé. Moi, je ne vois pas tellement comment ça va arriver véritablement.
Moi, j'avais peur que la Corée du Nord roule Trump dans farine, puis j'ai l'impression que c'est ça qui est arrivé.
La farine de riz.
Ah ben oui.
Mais sans
alors, ils vont se revoir, les deux Corées, pour essayer de...
Ils vont se revoir. Et en fait, c'est que la Corée du Sud essaie d'être un médiateur entre les États-Unis et la Corée du Nord.
Oui.
Ils vont se revoir possiblement après le 9 septembre. La date précise n'a pas été spécifiée, mais on pense que ça va être après le 9, parce que le 9, c'est le 70e anniversaire de la fondation de la Corée du Nord. Donc, on va suivre ça, on va voir ce qui arrive entre les deux Corées.
Oui, ça, c'est sûr qu'on va en reparler. Et en terminant, on parle de l'Asie en Thaïlande.
L'obésité inquiète.
L'obésité inquiète, mais ça, c'est pas nouveau.
Oui, mais chez les moines.
Ah, les moines.
Les moines.
Les moines sont obèses en Thaïlande?
Oui.
Mais ils n'ont pas l'habitude d'être obèses, les moines. Ils sont supposés.
Non, ils sont supposés pas manger après-midi, mais ils reçoivent des aumônes, des offrandes des gens. Mais les gens leur donnent des cochonneries. Alors, comme ils méditent toute la journée. Et puis, après-midi, ils n'ont pas le droit de manger, mais ils boivent des boissons énergisantes et ce genre de choses. Alors, 50% des moines sont obèses, figure-toi, en Thaïlande. Alors, le ministère de la Santé publique a dit aux gens, écoutez, donnez-leur donc des collations fraîches, des choses de
donnez-leur des fruits, des légumes.
Des fruits, des légumes, des choses de santé. Mais il y a un problème général en Thaïlande. Le tiers des hommes est obèse et 40% des femmes sont obèses en Thaïlande.
Et tous les problèmes de cholestérol, de diabète, de haute pression qui viennent avec.
Bien entendu.
Loïc Tassé, on finit ça sur une note légère. Merci.
Ben, légère, d'une certaine manière. Oui, ça dépend. Ils sont lourds un peu.
Bon, à demain.
À demain.
Dans un instant, Jérémy Rainville avec les sports et la société.